Chapitre 4 Don.
Dans la nuit d'hiver, la lune brille d'un éclat vif et projette des ombres nettes et noires. Les rochers de la grève baignent dans des flaques d'encre, et ta coque est plongée dans une obscurité absolue. Et puis, à cause de mon feu, il y a aussi d'autres sortes d'ombres, dansantes, changeantes. Ainsi, quand je te regarde, certaines parties de toi sont noires et durement découpées dans le clair de lune, et d'autres paraissent plus douces à la lumière des flammes.
La voix d'Ambre était presque hypnotique. Il sentait, vaguement à cause de la distance, la chaleur du feu qu'elle avait bâti avec des morceaux de bois rejetés par la mer et allumés un peu plus tôt, non sans difficulté. Le chaud et le froid étaient des sensations qu'il avait appris à décrire auprès des hommes, l'une agréable, l'autre désagréable. Mais l'idée elle-même que le chaud valût mieux que le froid était un concept acquis, car pour du bois, c'était égal. Pourtant, par une telle nuit, avoir chaud lui paraissait plaisant, en effet.
Ambre était assise, en tailleur, lui avait-elle dit, sur une couverture pliée pour l'isoler du sable humide, et elle s'adossait à sa coque. La texture de sa chevelure qui tombait librement sur ses épaules était plus fine que celle de l'algue la plus douce. Ses cheveux s'accrochaient au grain du bois sorcier, et quand elle bougeait, des mèches caressaient le vaigrage avant de s'en détacher.
« Tu parviens presque à me rappeler le temps où j'y voyais encore. » Pas seulement l'époque où la vue était un outil qui servait à distinguer formes et couleurs, mais celle où c'était un plaisir auquel j'aimais à me laisser aller.
Sans répondre, Ambre leva la main et la posa à plat sur ses planches. C'était un geste coutumier chez elle qui évoquait à parangon, par certains aspects, un contact visuel, comme un échange de regards plein de sous-entendus, mais sans les yeux. Il sourit.
« Je t'ai apporté quelque chose, » dit Ambre, interrompant le silence amical.
« Tu m'as apporté quelque chose ? » répéta-t-il, étonné. « C'est vrai ? »
Il s'efforça de conserver un ton calme.
« Personne, je crois, ne m'a jamais apporté quoi que ce soit. »
Elle se redressa.
« Comment ? Jamais ?
Nul ne t'a jamais fait de cadeau ? »
Il haussa les épaules.
« Où le mettrai-je ? »
« Ah, j'y ai pensé. C'est un présent que tu peux porter sur toi. Tiens, tends ta main. Je suis très fier de cet objet, alors je veux te le montrer pièce par pièce. Il m'a fallu du temps pour le fabriquer. J'ai dû agrandir chaque partie pour la mettre à l'échelle, tu comprends ? Voici la première. Reconnais-tu ce que c'est ? »
Et de sa main minuscule, elle lui écarta les doigts et déposa un objet dans sa paume, un objet en bois. Il était percé d'un trou, dans lequel passait un cordon épais. Le bois était poncé, lissé, et il avait une forme particulière.
Parangon le fit tourner délicatement entre son pouce et son index. La sculpture était courbe, mais il y avait une saillie là, et l'extrémité était aplatie et déployée.
« C'est un dauphin !»
dit-il.
Du bout des doigts, il suivit à nouveau l'échine incurvée et l'éventail de la nageoire caudale.
« C'est extraordinaire !»
fit-il en éclatant de rire. Ambre répondit d'un ton ravi.
« Ce n'est pas fini. Passe au suivant sur le cordon. »«
Il y en a plusieurs ?»
« Naturellement, c'est un collier. Arrives-tu à savoir ce qu'est le suivant ?»«
Je veux le mettre, »
déclara-t-il.
Ses mains tremblaient. « Un collier, un cadeau pour lui. »
Sans attendre la réponse d'Ambre, il saisit le cordon et se le passa par-dessus la tête. Le fil se prit dans les éclisses de ses yeux, mais il le dégagea et le laissa tomber sur sa poitrine. Ses doigts coururent rapidement sur les petites sculptures. Il y en avait cinq. Cinq!
Il les palpa de nouveau plus lentement. Un dauphin, une mouette, une étoile de mer et... Ah, un crabe et un poisson, un flétan. Je sens ses écailles et la bosse de ses yeux. Ceux du crabe se trouvent au bout de leur pédoncule. L'étoile de mer est rugueuse et voici les alignements de ventouses en dessous. Oh, ambre, c'est prodigieux. Est-ce beau sur moi? Est-ce que ça me va bien?
Ma parole, mais te voilà bien vaniteux. Je n'aurais jamais cru ça toi, parangon.
Jamais il n'avait perçu un tel ravissement dans la voix de la femme.
Oui, c'est très beau. On dirait que ça fait partie de toi. Je dois avouer que ça m'inquiétait. Tu es manifestement l'œuvre d'un maître sculpteur, et je craignais que mes créations ne paraissent maladroites à côté de tant de raffinement. Mais je dois me féliciter, même si ce n'est pas à moi de me jeter des fleurs. Chaque animal est fait d'un bois différent. Le sens-tu? L'étoile de mer est en chêne, et j'ai découvert le crabe dans un gros nœud de pin. Le dauphin, lui, se trouvait dans l'arrondi d'une branche de saule. Touche-le et suis-en le grain du doigt. De fil et de couleur, aucun n'est semblable aux autres. Je n'aime pas peindre le bois. Il a ses teintes propres, et à mon avis, c'est ainsi, naturel et posé sur ta peau hâlée, qu'il est mis le mieux en valeur. Elle partageait avec lui ses idées d'un ton vif et passionné, presque intime, comme si nul au monde ne pouvait la comprendre mieux que lui, et Parangon se sentit merveilleusement flatté lorsqu'elle effleura sa poitrine du bout des doigts. « Puis-je te poser une question ? »
demanda-t-elle.
« Naturellement. »
Il palpait chaque sculpture l'une après l'autre en y découvrant sans cesse de nouveaux détails de texture et de forme.
D'après ce que j'ai entendu dire, la figure de proue d'une vive nef est peinte, mais quand elle s'éveille, elle prend une teinte qui lui est propre. C'est ce qui s'est passé pour toi, mais comment cela se fait-il? Pourquoi? Et pourquoi seulement la figure de proue? Pourquoi pas toutes les parties du navire qui sont en bois sorcier?
Je l'ignore, répondit-il avec gêne. Il arrivait à Ambre de poser de ces questions incongrues et il n'aimait pas cela. Elle lui rappelait trop vivement leur différence. En outre, ses interrogations tombaient toujours au moment où il se sentait le plus proche d'elle. Pourquoi ton teint a-t-il la couleur qu'il a? Comment ta peau, tes yeux te sont-ils venus?
Ah, je comprends.
Elle se tut un instant. Je pensais que la volonté entrait peut-être dans le processus.
Tu représentes un tel prodige pour moi. Tu parles, tu penses, tu bouges. Peux-tu bouger tout entier? Pas seulement les parties sculptées comme tes mains et tes lèvres, mais ton planchéiage et tes membrures aussi.
Cela lui était possible. Un bateau flexible résistait mieux aux coups de bélier du vent et des vagues qu'un bâtiment trop rigide. Les planches pouvaient plier légèrement pour amortir la pression de la mer, voire s'écarter les unes des autres pour laisser pénétrer sans bruit une nappe d'eau qui s'étendait et s'accumulait dans le navire, noir, glacé comme la nuit même. Mais cela serait impardonnable. Ce serait une trahison de sang-froid, impardonnable, inexpiable. Parangon rejeta brusquement le souvenir torturant et demanda soudain soupçonneux
« Pourquoi cette question ?»
Que cherchait-elle ? Pourquoi lui apportait-elle des cadeaux ? Nul ne pouvait éprouver de réelle affection pour lui, il le savait bien, il l'avait toujours su.
Peut-être n'était-ce qu'une ruse ?
Peut-être Ambre était-elle en cheville avec Restart et Mingsley ? Et s'efforçait-elle de percer tous ses secrets, de tout apprendre sur le bois sorcier avant d'aller le répéter à ses acolytes?
« Je ne voulais pas t'assombrir, »
dit Ambre à mi-voix.
« Ah non? Que voulais-tu alors ? »
demanda-t-il d'un ton sarcastique.
« Te comprendre ?»
Il n'y avait aucune agressivité dans sa réponse, aucune colère, seulement de la douceur.
À ma façon, je suis aussi différente des habitants de Terrilleville que de toi. Je suis une étrangère, et je pourrais vivre aussi longtemps que je le veux dans cette cité, y exercer mon métier le plus honnêtement du monde, je resterai toujours une nouvelle venue. Les immigrants ne sont pas les bienvenus à Terrilleville, et la solitude me pèse. »
Elle baissa le ton.
« C'est pourquoi je recherche ton amitié, parce que je te sens aussi seul que moi. »
Seul, donc pitoyable. Elle avait pitié de lui, et le croyait idiot, assez en tout cas, pour s'imaginer qu'elle avait de l'affection pour lui alors qu'elle cherchait seulement à percer ses mystères.
« Et parce que tu aimerais connaître les secrets du bois sorcier ?»
dit-il pour voir quelle serait sa réaction.
Elle se laissa prendre au piège de son ton mesuré. Elle eut un petit rire. « Je mentirais si je prétendais ne pas être curieuse. D'où vient ce bois capable de s'animer? Quel genre d'arbre le produit et où pousse-t-il? Cette essence est-elle rare? Oui, certainement, puisque des familles s'endettent pour plusieurs générations afin d'en posséder quelques morceaux. Pourquoi ? » Ses propos faisaient trop fidèlement écho à ceux de Mingsley.
Parangon éclata d'un rire sec, étonnant, qui éveilla les oiseaux de la falaise et les fit s'envoler en criaillant dans l'obscurité.
« Comme si tu ne le savais pas !»
se moqua-t-il.
« Pourquoi Mingsley t'a-t-il envoyé ? « Croit-il que je vais t'accorder mon amitié? Que je vais naviguer par affection pour toi? Je connais ses projets. Il s'imagine qu'en me possédant, il pourra remonter sans crainte le fleuve du désert des pluies et faire ma base sur un commerce qui n'appartient de droit qu'aux marchands de Terrilleville et du désert des pluies. »
Parangon prit un ton méditatif.
« Il pense qu'étant fou, je vais trahir ma famille. Que, parce qu'elle me hait, me maudit et m'abandonne, je vais me retourner contre elle. »
Il tira brutalement sur le cordon du collier qui se rompit et le jeta sur le sable.
« Mais je suis fidèle. J'ai toujours été fidèle et loyal, quoi qu'on ait pu en dire ou en croire. J'ai toujours été fidèle, et je le reste. »
D'une voix forte et rauque, il déclara.
« Écoutez-moi, membre de la famille Lutchans. Je vous suis fidèle. Je ne navigue que pour les miens, que pour vous. »
Il sentit sa coque vibrer à l'unisson de sa voix. Sa poitrine se soulevant et s'abaissant, il haletait dans la nuit d'hiver. Il tendit l'oreille, mais ne perçut aucune réaction de la part d'Ambre. Il n'entendait que le crépitement du feu, les cris querelleurs des oiseaux qui se réinstallaient dans leur nid et le clapotis éternel des vagues. Rien d'Ambre. Peut-être s'était-elle sauvée pendant qu'il protestait de sa loyauté. Peut-être s'était-elle éloignée dans la nuit, honteusement, lâchement. Il avala sa salive en se massant le front. Cela n'avait pas d'importance. Elle n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance. Non, rien. Il se frotta la nuque là où le cordon avait cassé. Il écouta les vagues qui progressaient peu à peu sur la grève à mesure que la marée montait. Il perçut le bruit des bouts de bois qui s'effondraient sur les braises et sentit la bouffée de fumée qui s'en échappa. Il sursauta quand Ambre parla.
« Ce n'est pas Mingsley qui m'envoie. »
À l'oreille, il comprit qu'elle se dressait brusquement. Elle s'approcha du feu et se mit à réarranger les morceaux de bois, puis poursuivit d'une voix calme et maîtrisée.
« Tu as raison. La première fois que je suis venu, c'est lui qui m'a amené. Il proposait de te débiter pour récupérer ton bois sorcier. Mais dès l'instant où je t'ai vu, mon cœur s'est élevé contre cette idée. Parangon, je souhaiterais vraiment gagner ton amitié. À mes yeux, tu es un prodige et une énigme. » Et ma curiosité a toujours été plus grande que ma sagesse. Mais ma solitude les bat toutes les deux, parce que je suis loin de chez moi et des miens, dans le temps autant que dans l'espace. »
Elle parlait vite, et ses mots tombaient comme une grêle de pierre. Elle se déplaçait sur la grève. Parangon entendait le froissement de ses jupes. Son oreille fine capta le bruit de deux bouts de bois entrechoqués.
« Mon collier ?» se dit-il, consterné. Elle était en train d'en ramasser les morceaux. Elle allait reprendre son cadeau.
« Ambre !»
fit-il d'un ton implorant, d'une voix aiguë qui se brisa en fin de mots, comme cela lui arrivait parfois quand il avait peur.
« Tu remportes mon collier ?»
Un long silence. Puis elle répondit, presque revêche.
« Je pensais que tu n'en voulais plus. »«
Si, je le veux. J'y tiens beaucoup. »
Comme elle ne disait rien, il rassembla son courage.
« Tu me méprises à présent, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il. Il s'exprimait avec grand calme, bien que d'une voix anormalement haute.
« Parangon, je... »
Elle laissa la phrase en suspens, puis reprit soudain avec douceur.
« Je ne te méprise pas, mais je ne te comprends pas non plus, »
ajouta-t-elle tristement. « Parfois, j'entends dans tes propos la sagesse de plusieurs générations,
et en d'autres occasions, tu te transformes sans crier gare en enfant gâté. »
« Tu as 12 ans, tu es presque adulte, sacré nom, et si tu n'apprends pas à te comporter en conséquence pendant ce voyage, tu ne deviendras jamais un homme, espèce de petite larve pleurnicharde. »
Il se couvrit les yeux, ou du moins leur emplacement, pour cacher les larmes qui auraient dû en couler. Puis il plaça une de ses mains sur sa bouche pour étouffer le sanglot qu'il sentait monter.
« Pourvu qu'elle ne me regarde pas, »
se dit-il.
« Pourvu qu'elle ne me voit pas. »
Ambre continuait son discours.
« Je ne sais pas comment te prendre, quelquefois. Ah, voici le crabe. Je les ai tous maintenant. » Tu devrais avoir honte de les avoir jetés ainsi, comme un bébé qui jette ses jouets. Il faut que je répare le cordon à présent. Alors un peu de patience, s'il te plaît. »
Il écarta sa main de sa bouche et inspira profondément pour se calmer, puis réussit à exprimer ce qu'il redoutait.
« Est-ce que j'ai... Est-ce qu'ils sont cachés ?»«
Non.
Je suis bonne ouvrière, heureusement. »
Elle avait regagné sa couverture étendue près du feu et il entendait les petits bruits qu'elle faisait en travaillant, les infimes chocs des sculptures les unes contre les autres.
« Quand je les ai fabriqués, je n'ai pas oublié qu'ils allaient rester exposés au vent et à la pluie, et je les ai longuement huilés et cirés. En outre, ils sont tombés sur le sable, mais contre des rochers, ils ne résisteraient pas. Aussi, à ta place, je ne recommencerai pas. »
« C'est promis. »
Puis il demanda d'un ton circonspect.
« Tu es en colère contre moi ?»«
Je l'étais, mais c'est passé. »
« Tu n'as pas crié. J'ai même cru que tu étais parti. »
« J'ai bien failli m'en aller, en effet. Je n'aime pas les hurlements. J'ai horreur de me faire invectiver, et je ne crie jamais contre personne.
Ce qui ne veut pas dire que je ne me mets jamais en colère. » Elle se tut un instant, puis ajouta
« Ni que je suis insensible. Seule ma douleur est plus muette que ma colère. » C'est une citation de Tini, le poète, ou plutôt une paraphrase, une traduction.
« Récite-moi ce poème, »
fit Parangon, sautant sur l'occasion de passer à un sujet de conversation moins délicat. Il ne voulait plus entendre parler de colère, de mépris ni d'enfant gâté. Au cours de sa déclamation, peut-être oublierait-elle qu'il ne s'était pas excusé. Il ne voulait pas qu'elle sût qu'il en était incapable.
Nounou dit qu'elle préférerait rester chez nous à demi-salaire si nous en avons encore les moyens,
dit Ronica. Il n'y avait pas un bruit dans la pièce. Kefria était installée dans un fauteuil de l'autre côté de la cheminée, à la place qu'occupait son père lors de ses séjours à terre. Elle tenait entre ses mains un petit canevas, et des pelotes de fil de couleur étaient posées sur un de ses accoudoirs, mais elle ne cherchait plus à faire semblant de travailler. Les mains de Ronica étaient également inactives.
« Eh bien, en avons-nous les moyens ? »
demanda Kefria.
« Tout juste. À condition que nous acceptions une cuisine et une existence frugale. Je suis presque gêné d'avouer quel soulagement et quelle reconnaissance m'inspire sa proposition. J'avais des remords de l'obliger à partir. La plupart des familles cherchent de jeunes femmes pour s'occuper de leurs enfants et elle aurait eu du mal à trouver une autre place. Je sais. Et puis, ça aurait été un choc terrible pour Selden.
Kefria s'éclaircit la gorge.
Bien. Et qu'en est-il de Rack?
Pareil, répondit Ronica laconiquement.
Avec prudence, Kefria dit « Si nos finances sont mauvaises à ce point, peut-être n'est-il pas aussi essentiel de verser un salaire à Rack que... »
Ronica l'interrompit d'un ton cassant.
« Ce n'est pas mon point de vue. »
Kefria se tut sans la quitter des yeux. Au bout d'un moment, Ronica détourna le regard.
« Pardon, je suis trop sèche avec tout le monde ces temps-ci, je sais. »
Elle fit un effort pour prendre un ton plus aimable.
« Je tiens à ce que Rack touche quelque chose. C'est important pour nous toutes. Pas au point de jouer l'existence de Malta, mais davantage que de nouvelles robes et des rubans pour les cheveux. »«
À vrai dire, je suis d'accord, » répondit Kefria à mi-voix. « Je voulais seulement discuter avec toi. Eh bien, maintenant que nous sommes convenus des dépenses nécessaires, reste-t-il de quoi payer les festrés ?»
Sa mère hocha la tête.
Nous avons la somme en or, Kefria. Je l'ai mise de côté tout entière, y compris le dédit. Nous pouvons payer les festrés. D'ici là, en revanche, nous ne pouvons rembourser personne d'autre, et il y aura sûrement des créanciers pour venir chercher leur dû.
Que feras-tu alors ? Demanda Kefria. Puis elle se reprit. Que devons-nous faire, à ton avis ?
Ronica poussa un soupir.
« Attendre de voir ceux qui se présentent et jusqu'à quel point ils insistent. La Vivacia ne doit plus tarder. Certains accepteront peut-être de remettre leurs créances jusqu'à son arrivée, d'autres risquent de demander des intérêts. Au pire, quelques-uns exigeront un paiement immédiat. Nous devrons alors vendre une partie des propriétés.
Mais selon moi, il ne faudrait y avoir recours qu'en désespoir de cause. »
« En effet. »
Ronica s'exprimait d'un ton ferme.
Les voitures, les chevaux, même les bijoux, tout cela va et vient. Et je n'ai pas l'impression que ce que nous avons vendu nous ait manqué vraiment. Oh, je sais bien que Malta a mal pris de ne pas avoir de nouvelles toilettes cet hiver, mais je ne crois pas que sa souffrance ait été à la hauteur de sa méchante humeur. Il n'est pas mauvais qu'elle apprenne à se montrer un peu économe. Elle n'a guère eu l'occasion jusqu'ici de s'y exercer.
Kefria tint sa langue. Le sujet de sa fille était devenu sensible, et elle préférait l'éviter autant que possible.
« Mais les terres, »
fit-elle pour relancer sa mère, elles avaient déjà eu cette discussion, et elles ne savaient pas vraiment pourquoi elle ramenait la question sur le tapis.
« Les propriétés, c'est une autre affaire. » De plus en plus de gens s'installent à Terrilville, et le prix des terrains les plus recherchés augmente en conséquence. Si nous vendions aujourd'hui, ce seraient les nouveaux arrivants qui nous feraient les meilleures offres, et si nous les acceptions, nous nous ferions mal voir des autres premiers marchands parce que nous donnerions davantage de pouvoir aux étrangers. En outre, et c'est pour moi l'argument le plus important, nous perdrions quelque chose d'irremplaçable. On peut toujours acheter une nouvelle calèche ou des boucles d'oreilles, mais il ne reste plus de terrains alluviaux disponibles à proximité de Terrilville. Une fois que nous aurions cédé les nôtres, nous ne pourrions jamais les récupérer.
Tu as raison, je pense. Et tu crois que nous pouvons tenir jusqu'au retour de la Vivacia ?
Oui. Nous avons appris qu'elle a croisé le Paroc dans le détroit de Markham, ce qui signifie qu'elle suivait les prévisions pour sa date d'arrivée à Jamelia. Le trajet vers le sud est toujours délicat à cette époque de l'année.
Ronica ne faisait que répéter ce que sa fille et elle savaient pertinemment. Qui avait-il donc de si rassurant à échanger des vues déjà connues ? Peut-être la croyance qu'à force de les ressasser, le destin les entendrait et prêterait attention à leurs espoirs.
Si Kyle vend aussi bien les esclaves qu'il le pensait, nous devrions avoir de quoi nous libérer de nos dettes à son retour.
Ronica avait pris un ton parfaitement neutre pour parler des esclaves. Elle n'approuvait toujours pas ce commerce. Kefria non plus, certes, mais quelle autre solution avait-elle?
Oui, s'il vend bien les esclaves, nous aurons assez,
répéta-t-elle à la suite de sa mère.
Mais tout juste.
Maman, combien de temps pourrons-nous tenir à rester à peine quitte envers nos créanciers? Si le prix des céréales chute encore un peu, nous tomberons avec lui. Que se passera-t-il alors?
Nous ne serons pas seuls, dit sa mère d'un ton sinistre.
Kefria prit son souffle. Elle parlait souvent de leurs espérances déçues. À présent, rassemblant son courage, elle s'apprêtait à exprimer la crainte qu'elle n'osait pas dire.
Crois-tu vraiment à un soulèvement contre le gouverneur? À une guerre?
Le seul fait d'évoquer un conflit avec la capitale était difficile. Kefria avait beau être née à Terrilville, Jamelia restait la mère patrie, la source, l'orgueil des habitants de Terrilville, le siège de toute civilisation, de toute science, Jamelia la blanche qui scintillait au sud comme un joyau.
Ronica se tut un long moment avant de déclarer « Cela dépendra en grande partie de la réponse du gouverneur à nos ambassadeurs. »
Il circule une autre rumeur inquiétante sur lui. Il aurait l'intention d'engager des mercenaires Calcèdes pour escorter les navires marchands et les corsaires jaméliens afin de débarrasser le passage intérieur des pirates. Et déjà les discussions vont bon train. Les gens disent qu'on ne doit pas autoriser des vaisseaux armés Calcèdes dans nos eaux et nos ports. Mais je ne pense pas que nous nous dirigions vers un conflit déclaré. Nous ne sommes pas des guerriers, mais des marchands. Le gouverneur doit savoir que nous lui demandons seulement de tenir sa parole envers nous. Nos ambassadeurs ont emporté la charte d'origine de notre assemblée. Elle sera lue devant le gouverneur et ses compagnes. Ainsi, nul ne pourra démentir ce qui nous a été promis. Il sera obligé de rappeler les nouveaux marchands.
Toujours la même rengaine, se dit Kefria. Sa mère parlait de leurs espoirs. Essayait de créer une réalité à partir de simples paroles.
Certains pensaient qu'ils pourraient offrir de nous dédommager en espèces, fit-elle d'un ton hésitant.
Nous refuserions,
répliqua vivement sa mère.
Franchement, j'ai été choqué quand Davad Restart a proposé que nous nous mettions d'accord sur une somme et que nous allions la réclamer. On ne rachète pas une promesse.
Elle ajouta d'un ton amer
« Parfois, je crains que Davad n'ait oublié son propre statut. Il passe beaucoup de temps en compagnie des nouveaux marchands et prend trop souvent leur défense.
Nous sommes le lien entre le monde extérieur et nos parents du désert des pluies.
Devons-nous préférer l'argent à notre famille ?»«
Il m'est pénible de penser à cela en ce moment. » À chaque fois, je la ressens comme une menace envers Malta.
Une menace ?
Ronica parut presque froissée.
Kefria, il ne faut pas oublier qu'elle nous oblige à respecter notre ancien accord et rien de plus. Nous avons exactement la même attitude avec le gouverneur.
Alors, tu n'aurais pas l'impression de vendre Malta comme une esclave ? S'il venait un temps où nous n'aurions pas d'or à verser et qu'on nous réclame du sang à la place ?
Ronica se tut un moment.
« Non, »
répondit-elle enfin. Puis elle soupira.
« Je ne me réjouirais certes pas de la voir partir, mais tu sais, Kefria, je n'ai jamais entendu dire qu'un homme ou une femme de Terrilville ait été retenu contre son gré chez les marchands du désert des pluies. « Ce sont des épouses et des époux qu'ils veulent, pas des domestiques. Qui souhaiterait se marier avec quelqu'un qui n'est pas consentant ? Certains d'entre nous se rendent là-bas de leur propre chef,
et d'autres, qui y sont obligés par contrat, reviennent quand cela leur convient.
Tu te rappelles, Silla Maloubi? On l'a emmenée dans le désert des pluies lorsque sa famille n'a pas pu respecter un contrat. Eh bien, 8 mois plus tard, ils l'ont ramenée chez nous parce qu'elle était malheureuse là-bas. Mais au bout de 2 mois, elle leur a dit qu'elle avait commis une erreur et ils sont revenus la chercher.
Tu vois, ce ne doit pas être aussi affreux.
Pour ma part, j'ai entendu dire que sa famille l'avait forcée à y retourner en lui faisant honte. Son grand-père et sa mère auraient considéré qu'elle avait déshonoré les Maloubi et rompu son serment en rentrant à Terrilville.
« C'est possible, »
concéda Ronica d'un ton dubitatif.
« Je refuse que Malta s'en aille là-bas contre son gré, » dit Kefria sans embâge, « pour une question de devoir ou de fierté, ou même pour notre réputation. Si ça devait arriver, je crois que je l'aiderais moi-même à se sauver. »
« Que ça me garde, moi aussi, je le crains. » Sa mère avait attendu quelques minutes avant de prononcer ces mots d'un ton qui semblait contraint. Kefria resta pantoise, non seulement de l'aveu de sa mère, mais aussi de la profonde émotion que sa voix trahissait. Ronica reprit.
« Il m'est parfois arrivé de détester ce navire. Comment un simple objet peut-il valoir autant ? Ceux qui l'ont acheté ne se sont pas contentés de promettre de l'or, ils ont aussi lié leurs descendants.
Si papa avait continué à commercer avec le désert des pluies, la vivacia serait sans doute déjà remboursée, observa Kefria.
C'est très probable, mais à quel prix ?
C'était la réponse classique de papa, dit Kefria d'une voix lente. Mais je ne l'ai jamais comprise. Il ne s'expliquait jamais et ne parlait jamais de ce sujet devant nous, les filles. La seule fois où je l'ai interrogé, il m'a seulement répondu que ce serait un choix néfaste. Pourtant, toutes les autres familles qui possèdent une vive nef commercent avec les gens du désert des pluies. Les Vestrites en possèdent une, ils ont donc ce droit aussi. Pourtant, papa a toujours refusé. Elle s'avança avec la plus grande prudence.
Nous devrions peut-être reconsidérer sa décision. Kyle serait prêt à essayer. Je l'ai compris lorsqu'il a voulu savoir où étaient les cartes du fleuve du désert des pluies. Nous n'en avions jamais discuté jusque-là. Je pensais que papa lui avait peut-être déjà expliqué sa position. Avant ce jour-là, il ne m'avait jamais demandé pourquoi nous avions cessé tout trafic sur le fleuve. Le sujet ne s'était jamais présenté entre nous.
Et si tu te débrouilles intelligemment, « il ne se présentera plus jamais, »
répondit Ronica d'un ton sec.
« Kyle, sur le fleuve du désert des pluies, ce serait une catastrophe. »
Kyle, autre sujet sensible. Kefria poussa un soupir.
« Je me souviens que, quand j'étais petite, grand-père remontait le fleuve sur la vivacia. Je revois encore les cadeaux qu'il nous rapportait. Une fois, j'avais eu une boîte à musique qui scintillait quand elle jouait.
Elle secoua la tête.
Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue.
Un ton plus bas, elle ajouta.
Je n'ai jamais vraiment compris le refus de papa de commercer sur le fleuve. Les yeux perdus dans le feu comme si elle narrait quelque vieille histoire, Ronica répondit.
Ton père éprouvait du ressentiment à l'égard du contrat avec les Vestrites. Certes, il adorait le bateau, et il ne s'en serait séparé pour rien au monde, mais il aimait ses filles encore davantage. Et à ton instar, il considérait le contrat comme une menace qui pesait sur ses enfants. L'idée d'être lié par un accord dans lequel il n'avait pas eu son mot à dire lui déplaisait.
Ronica baissa la voix.
Dans un certain sens, il en voulait au Festré de le tenir par les termes d'un marché aussi cruel. Peut-être voyait-on les choses autrement autrefois. Peut-être.
Elle hésita un instant, puis reprit.
Non, je te mens. Je m'exprime comme le devoir m'y oblige. Un marché est un marché, un contrat
est un contrat. Mais ce contrat a été passé en d'autres temps, à une époque plus dure que la nôtre. Néanmoins, il nous lie toujours.
Mais papa l'acceptait mal, fit Kefria pour amener sa mère au sujet d'origine.
Il en contestait les conditions. Il disait souvent qu'on ne remboursait jamais une dette aux gens du désert des pluies. De nouvelles créances venaient s'ajouter aux anciennes, si bien que les chaînes d'obligations entre familles contractantes ne faisaient que se renforcer d'année en année. Cette idée lui faisait horreur. Il attendait le jour où le navire serait à nous, où nous ne devrions plus rien, et où, si nous le souhaitions, nous pourrions faire nos bagages et quitter Terrilleville.
Cette idée ébranla Kefria jusqu'au tréfonds. Quitter Terrilleville ? Son père avait vraiment songé à emmener sa famille loin de Terrilleville ?
Mais sa mère poursuivait. Et, bien que son père et sa grand-mère eussent fait le commerce des produits du désert des pluies, il a toujours regardé ses articles comme impurs. C'est le terme qu'il employait, impurs, imprégnés de trop de magie. Il pensait que, tôt ou tard, il faudrait en payer le prix.
En outre, il ne jugeait pas honorable, dans un sens, d'importer chez nous la magie d'un autre monde et d'un autre temps,
magie qui, peut-être, avait causé la perte d'un autre peuple, voire la chute des rivages maudits tout entiers. Il en parlait parfois, tard le soir, et il disait craindre que nous ne nous détruisions nous-mêmes, ainsi que notre civilisation, comme l'avaient fait les anciens.
Ronica se tut. Et les deux femmes demeurèrent sans bouger, perdues dans leurs pensées. Leur conversation portait sur des sujets rarement abordés, en général. De même que les cartes des chenaux délicats à franchir représentaient un avantage commercial de première importance, les connaissances durement gagnées des marchands de Terrilleville et du désert des pluies avaient une valeur inestimable. Leur fortune reposait autant sur les secrets qu'ils partageaient que sur les produits qu'ils échangeaient.
Ronica s'éclaircit la gorge. Alors, il a pris une décision à la fois courageuse et difficile. Il a cessé tout trafic sur le fleuve. En conséquence, il a dû travailler deux fois plus dur et rester absent trois fois plus longtemps pour un profit égal. Au lieu du désert des pluies, il est allé prospecter les petits ports perdus des canaux de l'intérieur des terres au sud de Jamelia, et il a commercé avec les indigènes pour rapporter des articles exotiques et rares, mais dénués de magie. Il jurait que cela ferait notre fortune, et s'il avait vécu plus longtemps, ça aurait sans doute été vrai.
Papa pensait-il que la peste sanguine était d'origine magique ?
Demanda Kefria, gênée. Où as-tu pris une telle idée ? Répliqua Ronica d'une voix tendue.
J'étais très petite. C'était juste après la mort des garçons. Davat se trouvait chez nous, je m'en souviens. Papa pleurait et moi je me cachais derrière la porte. Nous étions réunis dans une pièce. J'avais envie de vous rejoindre, mais j'avais peur parce que je n'avais jamais vu papa pleurer. Et j'ai entendu Davat Restart maudire les marchands du désert des pluies en disant qu'ils avaient réveillé la maladie en creusant dans leur ville. Sa femme et ses enfants étaient morts eux aussi. Et il a ajouté « Je m'en souviens ».
Coupa soudain Ronica. « Je me rappelle ce qu'a dit Davad. Mais tu étais trop petite pour comprendre qu'il vivait les affres d'une terrible douleur. Une terrible douleur. »
Ronica secoua la tête, les yeux dans le lointain, plein de souvenirs.
« En ces circonstances, on prononce des paroles qu'on ne pense pas, auxquelles on ne croit même pas. Il fallait à Davad quelqu'un ou quelque chose à qui reprocher ce drame, et pendant quelque temps, il en a rendu responsable les gens du désert des pluies. Mais il s'est ressaisi depuis longtemps. »
Kefria demanda d'un ton hésitant. « Est-il vrai que le fils de Davad... »
Mais l'exclamation de sa mère l'interrompit.
« Qu'est-ce que c'était ? »
Elles se redressèrent toutes deux dans leur fauteuil et tendirent l'oreille.
Les yeux de Ronica étaient si agrandis que le blanc apparaissait tout autour de l'iris.
« On aurait dit un gong ?» murmura Kefria dans le lourd silence. Entendre un gong du désert des pluies à l'instant où elle parlait de leurs habitants lui donnait la chair de poule.
Et il lui sembla percevoir des pas étouffés dans le couloir et, lançant un regard effrayé à sa mère, elle se leva d'un bond. Quand elle parvint à la porte et l'ouvrit, Ronica se tenait sur ses talons. Mais elle ne vit, ou plutôt n'entrevit, que Malta qui passait l'angle à l'autre bout du couloir.
« Malta !» fit-elle sèchement.
« Oui, maman ?»
La jeune fille réapparut. Elle était en robe de chambre, une tasse et sa soucoupe à la main.
« Que fais-tu debout à une heure aussi tardive ?»
demanda Kefria d'un ton sans aménité.
Malta leva sa tasse. « Je n'arrivais pas à dormir. » Alors je me suis préparé une infusion de camomille.
As-tu entendu un bruit étrange à l'instant ?
Sa fille haussa les épaules.
Je ne crois pas. C'est peut-être le chat qui a fait tomber un objet.
Ou bien il s'agit d'autre chose, marmonna Ronica d'un ton soucieux. Elle dépassa Kefria et se dirigea vers la cuisine. Sa fille la suivit, Malta dans son sillage, sa tasse à la main, le regard empreint de curiosité. L'obscurité régnait dans la pièce, en dehors de la lueur des feux couchés. Dans l'air flottaient les odeurs familières et bizarrement rassurantes de l'endroit. Feu, levure de la pâte à pain mise à reposer pour la cuisson du matin, repas du soir. Ronica avait pris une bougie dans le cabinet où elle parlait avec Kefria. Elle traversa la cuisine et ouvrit la porte qui donnait sur l'extérieur. L'air froid de l'hiver s'engouffra, créant des fantômes de brume dans la pièce.
« Il y a quelqu'un dehors ?»
demanda Kefria tandis que la bougie coulait dans le vent.
« Non, plus personne, » répondit sa mère d'un ton sombre. Elle s'avança sous le porche glacé, scruta les ténèbres alentour, puis se baissa pour ramasser un objet.
Elle rentra et ferma la porte derrière elle.
« Qu'est-ce que c'est ?»
firent Kefria et sa fille à l'unisson. Ronica posa la bougie sur la table, puis, à côté, un petit coffre en bois. Elle l'examina un moment, puis se tourna vers Malta, les yeux étrécis. « Ça t'est adressé. »«
C'est vrai ?»
s'exclama la jeune fille ravie. « Qu'est-ce que c'est ? Qui l'envoie ?»
Elle se précipita vers la table, rayonnante de plaisir anticipé. Elle avait toujours adoré les surprises. D'un geste sans équivoque, sa grand-mère plaqua fermement la main sur le couvercle de la boîte au moment où Malta allait s'en saisir.
« Ce que c'est ? » dit-elle d'une voix glacée. « C'est, je crois, un coffre à rêves. Il s'agit d'un présent traditionnel dans le désert des pluies. » Lorsqu'un homme désire faire la cour à une femme. Kefria sentit son cœur cesser de battre et le souffle lui manquer.
Mais Malta tenta seulement de s'emparer de la boîte que sa grand-mère tenait inébranlablement.
« Qu'y a-t-il à l'intérieur ? » demanda-t-elle. « Donne-le-moi ! »
« Non !»
répondit Ronica d'un ton autoritaire.
« Tu vas nous accompagner. » Ta mère et moi, au cabinet de ton grand-père. Tu as des explications à fournir, ma petite. »
Là-dessus, elle prit le coffret et sortit à grands pas.
« Maman, c'est pas juste. C'est à moi que c'est adressé. Dis à grand-mère de me le rendre. Maman, maman !»
Kefria prit conscience qu'elle s'était laissée aller à s'appuyer contre le bord de la table. Elle se redressa lentement.
« Malta, n'as-tu pas entendu ta grand-mère ? « Il s'agit du présent d'un homme qui veut te faire la cour. Comment est-ce possible ?»
Malta haussa les épaules.
« Je l'ignore, je ne sais même pas de qui ça vient, ni ce qu'il y a dedans. Comment veux-tu que je t'en dise quoi que ce soit si grand-mère refuse que j'y jette le moindre coup d'œil ?»«
Viens au cabinet !»
ordonna Kefria en soupirant. Malta partit aussitôt en courant, et le temps que sa mère parvint dans la pièce, elle se disputait déjà avec sa grand-mère.
Est-ce que je peux pas au moins l'ouvrir? C'est pour moi, non?
Non, tu ne peux pas. Malta, cette affaire est grave, beaucoup plus que tu ne parais t'en rendre compte. C'est un coffre à rêve que tu as reçu, et il est frappé de l'emblème des Hoprous. C'est peut-être la famille la plus prestigieuse du désert des pluies. Et ce n'est pas une coïncidence si elle représentait toutes les autres à la dernière réunion. On ne traite pas des gens comme eux par-dessus la jambe, et on ne se risque pas à les insulter. Sachant cela, veux-tu toujours de ce coffret ?
Ronica tendit l'objet à la jeune fille.
« Oui !»
répondit Malta d'un ton indigné en essayant de s'en emparer, mais Ronica le ramena contre elle au dernier instant.
« Malta !» s'exclama Kefria. « Ne sois pas stupide. Il s'agit d'un présent de cour. Il faut le renvoyer le plus poliment possible, en faisant comprendre aux Hoprous que tu es trop jeune pour te laisser courtiser par un homme, mais de façon très gracieuse.
« Ce n'est pas vrai !»
protesta Malta. « Je suis encore trop jeune pour être promise à un homme, mais pourquoi est-ce que je pourrais pas le laisser me faire la cour ? S'il te plaît, grand-mère, fais-moi au moins voir ce qu'il contient. »
« C'est un coffre à rêve, » répondit sèchement Ronica. « Donc il contient un rêve. On ne l'ouvre pas pour voir ce qu'il y a dedans, mais pour faire le songe qu'il renferme. »
« Comment peut-on mettre un rêve en boîte ? » demanda Kefria.
« Par magie, » dit Ronica d'un ton brusque. « La magie du désert des pluies. »
Malta eut un hoquet d'excitation.
« Est-ce que je pourrais le faire ce soir ?»«
Non !»
explosa Ronica.
« Malta, tu n'écoutes rien. Tu ne feras rien du tout. Il faut renvoyer ce coffret intact en expliquant avec la plus grande politesse qu'il a dû y avoir méprise. Si tu ouvres cette boîte et fais ce rêve, tu consens à la demande de cet homme. Tu lui donnes la permission de te courtiser. »
« Eh bien, en quoi est-ce si terrible ? C'est pas comme si je promettais de l'épouser. »«
Si nous te laissons ouvrir ce présent, nous acceptons également qu'il te fasse la cour. Cela revient à dire que nous te considérons comme une femme en âge d'avoir des soupirants, ce qui n'est certes pas le cas, »
dit Ronica d'un ton ferme. Malta croisa les bras et se jeta dans un fauteuil. Puis elle releva le menton d'un air de défi.
« Je serai bien contente quand mon père sera de retour !»
déclara-t-elle d'un ton boudeur.
« En es-tu sûre ? » répliqua Ronica, acide.
Pendant cette scène, Kefria avait l'impression d'être invisible et inutile de surcroît. Le spectacle de ces deux volontés qui se heurtaient lui évoquait l'image de jeunes taureaux au printemps en train de se pousser front contre front, de s'ébrouer et de se défier. C'était un combat qui se déroulait devant elle, une lutte pour la domination, destinée à décider laquelle des deux femmes allait imposer sa loi dans la maison pendant l'absence de Kyle. Puis, Kefria se reprit dans une subite intuition. Kyle n'était qu'un pion que Malta avait jeté dans la partie. Elle avait déjà découvert qu'elle pouvait manipuler son père, impuissant devant son caractère retors, et à mesure qu'elle grandirait, elle le considérait de moins en moins comme une gêne. Manifestement, seule sa grand-mère représentait un obstacle à ses yeux. Elle avait écarté sa propre mère comme quantité négligeable. Mais après tout, n'était-ce pas la réalité ? Depuis des années, elle se laissait balloter au gré des flux et reflux de la vie de la maison. Autrefois, son père naviguait, sa mère gérait les propriétés, et elle-même habitait sous le toit paternel. Quand Kyle était entré dans son existence, ils avaient dépensé son salaire surtout en distraction. Aujourd'hui que son père était mort, Kyle et Ronica luttaient pour tenir le gouvernail, pendant que Malta et sa grand-mère se battaient pour savoir qui édicterait les règles domestiques. Peu importait qui serait la gagnante, Kefria passerait inaperçue, invisible comme toujours. Malta ne prêtait nulle attention à ses tentatives maladroites pour faire preuve d'autorité. Comme tout le monde. Kefria se raidit et se dirigea brusquement vers sa mère.
« Maman, donne-moi cette boîte, » fit-elle d'un ton péremptoire. C'est ma fille qui est à l'origine de ce regrettable malentendu. C'est donc à moi, je pense, de rétablir la situation. »
L'espace d'un instant, elle crut que sa mère allait refuser. Mais, après un coup d'œil à Malta, Ronica lui remit le coffret. Il ne pesait guère, et Kefria prit conscience qu'il s'en dégageait un doux parfum, plus épicé que celui du bois de santal. Malta le regardait avec l'avidité d'un chien affamé devant un morceau de viande crue.
J'écrirai au Hoprous dès demain matin. Je pense pouvoir demander aux Kendri de leur rapporter leur présent.
Sa mère hochait la tête.
Mais songe à l'emballer soigneusement. Il ne faut pas que quiconque sache que nous le renvoyons. Refuser une proposition de cour, quelle qu'en soit la raison, est délicat. Mieux vaudrait que l'affaire reste entre les deux parties.
Comme Kefria acquiesçait, Ronica s'adressa soudain à Malta.
Tu as bien compris, Malta. Il ne faut en parler à personne, ni à tes petites amies, ni aux domestiques. Ce malentendu doit être résolu rapidement et sans équivoque.
L'intéressé la regarda d'un air maussade, sans rien dire.
« Malta !» fit Kefria d'un ton sec, et sa fille sursauta. « As-tu compris ? Réponds !»«
J'ai compris !» marmotta-t-elle.
Puis, avec un regard de défi à sa mère, elle se renfonça dans son fauteuil.
« Parfait. C'est donc réglé. »
Kefria avait décidé de mettre fin à l'affrontement tant qu'elle avait la haute main.
« À présent, je vais me coucher. »« Attends !»
intervint Ronica d'un ton grave.
« Il reste une chose que tu dois savoir sur les coffres à rêves, Kefria. » Ce ne sont pas des articles courants. Chacun est fabriqué séparément et accordé à une personne précise.
« Comment cela ?» demanda Kefria sans l'avoir voulu.
« Ah, ça, je l'ignore, naturellement. Mais voici ce que je sais. Pour en créer un, le fabricant doit d'abord posséder un objet personnel du destinataire. »
Ronica soupira en se radossant dans son fauteuil.
« Ce coffre n'est pas arrivé devant notre porte par hasard. Il a été spécifiquement adressé à Malta. »
Elle secoua la tête d'un air peiné.
« Elle a dû donner quelque chose qui lui appartenait à un homme du désert des pluies, un objet personnel dans lequel il a vu un présent. »«
Oh ! Malta, non !»
s'exclama sa mère atterrée.
« Je n'ai rien fait !»
La jeune fille se redressa, indignée.
« Je n'ai rien fait !»
Elle avait crié ces derniers mots. Kefria se leva pour vérifier la porte. Une fois assurée qu'elle était verrouillée, elle alla se planter devant sa fille.
« Je veux la vérité !» dit-elle d'un ton calme avec simplicité. « Que s'est-il passé et quand était-ce ? Comment as-tu fait la connaissance de ce jeune homme ? « Qu'as-tu fait pour lui donner à croire que tu accepterais un présent de cour ?»
Le regard de Malta passa de sa mère à sa grand-mère.
« C'est à la réunion des marchands, » avoua-t-elle boudeuse. « Je suis sortie prendre l'air et j'ai dit bonsoir à un cocher que j'ai croisé. Je crois qu'il se tenait appuyé à la voiture des Hoprous. C'est tout. »
« À quoi ressemblait-il ? »
demanda Ronica d'une voix tendue.
« Je l'ignore, » répondit Malta, et elle prit un ton ironique pour ajouter « Il était du désert des pluies. Ces gens portent des voiles et des capuches quand ils viennent chez nous, tu sais. »
« Je le sais, en effet, » répliqua Ronica. « Mais pas leur cocher. Crois-tu qu'ils ont descendu le fleuve en calèche, jeune sotte ? Chaque famille du désert des pluies a une voiture à demeure à Terrilville et ne s'en sert que lorsqu'elle vient ici. Par conséquent, il loue les services de cochers locaux. Si tu as parlé à un homme portant voile, c'est que tu avais affaire à un marchand du désert des pluies. Que lui as-tu dit et que lui as-tu donné ?
Rien !
S'emporta Malta.
Je lui ai dit bonsoir en passant devant lui, et il a répondu la même chose, c'est tout.
Alors, comment se fait-il qu'il connaisse ton nom? Comment a-t-il pu créer un rêve pour toi?
Insista Ronica.
Je n'en sais rien,
répliqua Malta. Il a peut-être deviné de quelle famille j'étais grâce à la couleur de ma robe, et il s'est renseigné ensuite pour apprendre mon prénom.
Brusquement, à la complète stupéfaction de Kefria, elle éclata en larmes.
« Pourquoi est-ce que vous me traitez toujours ainsi? Vous n'avez jamais un mot gentil pour moi. Vous n'avez qu'accusations et reproches à m'adresser. Vous me prenez pour une prostituée, une menteuse ou que sais-je. Quelqu'un m'envoie un cadeau. Vous ne me laissez même pas l'ouvrir. Et c'est moi qui suis en faute? Je ne sais plus comment me comporter avec vous. Vous voulez que je reste une petite fille, mais en même temps, vous attendez de moi que je sache tout et que je sois responsable en tout. Ce n'est pas juste. »
Elle se cacha le visage dans les mains, secouée de sanglots.
« Oh, Malta !»
dit involontairement Kefria d'un ton las. Elle s'approcha vivement de sa fille et posa les mains sur ses épaules tremblantes.
« Nous ne te prenons ni pour une prostituée, ni pour une menteuse. Nous nous faisons simplement beaucoup de soucis pour toi. Tu essaies de grandir trop vite, alors qu'il y a de nombreux périls que tu ne comprends pas. »«
Je regrette !» fit Malta en hoquetant. Je n'aurais pas dû sortir ce soir-là. Mais il faisait étouffant dans la salle, et tous ces gens qui s'invectivaient me faisaient peur.
Je sais, c'était effrayant.
Kefria tapota affectueusement l'épaule de sa fille. Elle s'en voulait de voir Malta pleurer ainsi, de l'avoir poussée, avec l'aide de sa mère, jusqu'au point de rupture. Et pourtant, elle éprouvait en même temps un sentiment de soulagement. La jeune fille insolente et acerbe était une inconnue, alors que la Malta qu'elle avait à présent devant elle était sa petite fille, en pleurs, et qui avait besoin d'être consolée. Peut-être avait-elle réussi à fissurer sa carapace, peut-être pouvait-elle enfin raisonner avec cette Malta-ci. Elle se pencha pour serrer contre elle sa fille, qui lui rendit son étreinte brièvement et avec maladresse.
« Malta, » dit-elle doucement, « tiens, regarde, voici la boîte. Tu ne peux ni la garder, ni l'ouvrir. Il faut la renvoyer intacte. Mais tu peux l'examiner. »
En reniflant, Malta se redressa dans son fauteuil. Ses yeux se portèrent sur le coffret que tenait sa mère, mais elle ne tenta pas de le prendre.
« Oh ! » fit-elle au bout d'un moment, « ce n'est qu'une boîte sculptée. J'espérais qu'elle était incrustée de pierres précieuses, je ne sais pas. »
Elle détourna les yeux de l'objet.
« Puis-je aller me coucher maintenant ? »
demanda-t-elle d'un ton las. « Bien sûr, va dormir. Nous reparlerons demain quand nous nous serons toutes reposées. » Soumise, Malta acquiesça en reniflant. Kefria la regarda partir à pas lents, puis se tourna vers sa mère avec un soupir.
« C'est dur parfois de la voir grandir. »
Ronica hocha la tête d'un air compréhensif, mais déclara « Enferme ce coffret à double tour pour la nuit. Demain matin, j'enverrai un coursier au quai le porter avec ta lettre au Kendré. » C'est quelques heures avant l'aube que Malta rapporta le petit coffre dans sa chambre. Il se trouvait exactement là où elle l'avait prévu, dans le placard secret de sa mère, au fond de la penderie de son cabinet de toilette. Elle y cachait toujours les cadeaux d'anniversaire et ses huiles corporelles les plus onéreuses. Malta avait craint qu'elle ne le garde sous son oreiller, voir qu'elle ne l'ouvre elle-même pour profiter du rêve, mais elle n'en avait rien fait. Malta referma la porte derrière elle et s'assit sur son lit, le coffret sur les genoux.
« Faire tant d'histoires pour un si petit présent !»
Elle approcha la boîte de son nez pour la humer. Oui, il lui avait bien semblé qu'elle dégageait un parfum sucré. Elle se leva et se dirigea sans bruit, pieds nus,
vers sa propre garde-robe. Sur l'étagère du haut, dans une cassette dissimulée sous de vieilles poupées, se trouvaient le châle et le bijou de feu. Dans l'obscurité, il paraissait flamboyer d'un éclat encore plus vif, et Malta resta un moment à le contempler avant de se rappeler pourquoi elle l'avait sorti de sa cachette. Elle posa son nez sur le châle qu'elle emporta ensuite pour comparer son parfum avec celui du coffret. Les fragrances étaient différentes, bien qu'exotiques toutes deux, agréables mais différentes. Par conséquent, le coffret n'était peut-être même pas un cadeau du personnage voilé. L'emblème qui l'ornait était semblable à celui de la voiture, certes, mais peut-être la boîte avait-elle été simplement achetée au Rouprous. Et si le véritable expéditeur n'était autre que Serwin? Depuis des années qu'elle connaissait Dilo, elle avait laissé quantité d'objets personnels chez elle. Dès lors, Serwin n'aurait eu aucun mal à faire fabriquer le coffret? Oui, maintenant qu'elle y songeait, c'était le plus vraisemblable. Après tout, pourquoi un inconnu rencontré par hasard enverrait-il un présent aussi onéreux? Non, c'était sans doute un cadeau de Serwin. Et soudain, elle tint la clé de voûte de ses supputations. Si l'homme au voile avait réussi à connaître son identité et à lui faire parvenir un présent, n'en aurait-il pas profité pour lui demander de lui retourner son châle et son bijou de feu? Mais si, naturellement. Donc, il était hors de cause. Le coffret venait de Serwin. Elle fourra écharpe et bijoux sous son oreiller, puis se coucha en chien de fusil, la boîte serrée contre elle. De l'index, elle suivit le contour de ses lèvres. Serwin. Son doigt descendit le long de son menton, traça une ligne entre ses seins. Quel genre de rêve avait-il pu lui choisir? Elle eut un petit sourire. Elle pensait le savoir. Son cœur se mit à battre un peu plus vite. Elle ferma les yeux et souleva le couvercle. Sans succès. Elle rouvrit les yeux pour l'examiner. Ce qu'elle avait pris pour un système de fermeture n'en était pas un. Le temps qu'elle comprenne le principe d'ouverture, l'agacement l'avait saisie. Et quand elle ouvrit enfin le coffret, elle découvrit qu'il était vide. Complètement vide. Elle avait imaginé un scintillement de poussière de rêve, un éclair de lumière, une bouffée de musique ou de parfum, mais elle eut beau scruter les coins de la boîte, puis passer la main à l'intérieur par acquis de conscience, elle ne trouva rien. Le petit coffre était vide. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-ce une plaisanterie? Ou bien la boîte, avec ses sculptures habiles et son bois agréablement parfumé, constituait-elle en elle-même un présent? Peut-être ne s'agissait-il même pas d'un coffre à rêve? Peut-être avait-elle été victime de l'imagination et des idées vieillottes de sa grand-mère? Un coffre à rêve! Elle n'en avait jamais entendu parler avant ce soir. Dans une grande vague d'irritation, tout devint clair. Sa grand-mère avait inventé cette fable afin que sa mère ne lui remît pas le cadeau, à moins que l'une d'elles ne l'eût ouvert et ne se fût approprié ce qu'elle contenait. « Je les déteste !» murmura Malta avec violence. Elle projeta la boîte sur la descente de lit et se rallongea brutalement sur ses oreillers. Elle aurait mieux fait, elle le savait, de se lever pour remettre le coffret dans la penderie de sa mère, mais une partie d'elle-même se moquait des conséquences. Qu'elle s'aperçoive donc qu'elle l'avait pris. Ainsi, elle comprendrait que Malta avait découvert leur vol. Sans le moindre regret, elle croisa les bras sur sa poitrine et ferma les yeux. Immobilité. Vide. Seule, une voix, un murmure. Ainsi, Malta Vestrit, tu as reçu mon présent. Nous sommes maintenant confondus, toi et moi. Allons-nous faire un beau rêve ensemble? Voyons cela. L'infime étincelle de conscience qui savait qu'il s'agissait d'un songe disparut. Un sac de toile l'enveloppait de la tête jusqu'aux genoux. Il sentait la poussière et la pomme de terre. Il avait certainement servi pour la moisson.
Quelqu'un la portait sur l'épaule, rapidement, d'un pas victorieux. Elle avait été enlevée. L'homme avait des compagnons qui poussaient des cris et des éclats de rire triomphants, mais lui-même éprouvait une satisfaction trop intense pour se laisser aller à un comportement aussi infantile. Elle sentait sur ses mollets le froid et l'humidité du brouillard nocturne. Elle était bâillonnée et ses mains liées dans son dos. Elle aurait voulu se débattre, mais elle craignait que l'homme ne la laisse tomber. En outre, elle ignorait où elle se trouvait et ce qui risquait de lui arriver si elle échappait à son ravisseur. Pour effrayante qu'elle fût, sa situation actuelle restait encore la plus sûre. Elle ne savait rien de l'homme qui la portait, sinon qu'il était prêt à se battre jusqu'à la mort pour la garder. Ils finirent par s'arrêter, et elle sentit qu'on la remettait sur pied tout en continuant à la tenir d'une poigne solide. Elle entendit une conversation étouffée, un bref échange à voix basse dans une langue inconnue. Apparemment, les compagnons de l'homme le pressaient en riant de faire quelque chose et il refusait aimablement mais avec fermeté. Au bout d'un moment, elle entendit des bruits de pas qui allaient décroissant et elle comprit qu'elle était à présent seule avec l'homme qui ne l'avait toujours pas lâchée. Elle sentit le baiser glacé du métal contre ses poignets et ses mains furent soudain libres. Aussitôt, à geste violent, elle se dégagea du sac et ôta le bâillon humide de sa bouche. La poussière et les fibres de la toile la faisaient larmoyer. Elle se passa les mains sur le visage et rejeta ses cheveux en arrière avant de se tourner vers son ravisseur. Ils étaient seuls, dans la nuit brumeuse. Elle distingua une ville et un carrefour, rien de plus. L'homme l'observait, comme s'il attendait de voir sa réaction. Elle ne put discerner ses traits. Sa capuche sombre était tirée trop en avant et son visage se perdait dans ses profondeurs. L'air était lourd et il y flottait une odeur de marécage. La seule lumière provenait de torches dont le brouillard atténuait l'éclat, très loin dans la rue. Si elle tentait de s'enfuir, se jetterait-il sur elle? Jouait-il au chat et à la souris? Si elle parvenait à s'échapper, ne se précipiterait-elle pas dans un danger plus grand encore? Le temps passant, elle eut le sentiment qu'il attendait une décision de sa part. Pourtant, au bout d'un moment, il lui fit signe de le suivre, puis il s'engagea d'un pas rapide dans une rue et elle l'accompagna. Il s'orientait avec assurance dans le dédale de la cité, et après quelque temps, il prit la main de Malta. Elle ne la retira pas. Le brouillard dense, humide et presque suffocant, et la nuit ténébreuse l'empêchaient de voir ce qui l'entourait. Des trouées dans la brume lui révélaient parfois de hauts bâtiments le long de la rue qu'ils arpentaient, mais le silence et l'obscurité étaient complets. Son compagnon paraissait savoir où il allait. Sa grande main sèche réchauffait celle glacée de Malta. Il finit par tourner, descendit quelques marches et poussa une porte. Une vague sonore jaillit de l'ouverture. Mélange de musique, de rire et de brouhaha de conversation, le tout dans un style et une langue que Malta ne connaissait pas. Ce n'était effectivement que du bruit pour elle, et un bruit assourdissant. Si bien que, même si elle avait été en mesure de comprendre son compagnon, elle n'eût pas entendu ce qu'il disait. Elle supposa qu'il se trouvait dans une sorte d'auberge ou de taverne. De nombreuses petites tables étaient disposées dans toute la salle et au centre de chacune d'elles brûlait une bougie. L'homme conduisit Malta vers une table inoccupée et lui fit signe de prendre place. Il s'assit de l'autre côté, puis rabattit son capuchon sur sa nuque. Pendant un long moment, ils restèrent immobiles l'un en face de l'autre. Peut-être écoutait-il la musique. Mais pour sa part, elle n'entendait qu'un vacarme assourdissant. À la lumière de la bougie, elle put enfin distinguer les traits de son compagnon. D'une beauté pâle, glabre, il avait les cheveux blonds et les yeux d'un brun chaleureux. Il portait une petite moustache. Ses épaules étaient larges, ses bras musclés. Tout d'abord, il se contenta de dévisager Malta,
Puis il tendit la main vers elle et elle y posa la sienne. Il sourit. Malta eut soudain l'impression qu'ils avaient atteint une si grande compréhension mutuelle que la barrière du langage en devenait un bienfait. Les mots n'auraient été que des intrus dans cet état de grâce. Un long moment parut s'écouler. Puis, l'homme ouvrit une bourse et en sortit une bague sertie d'une simple pierre. Malta regarda l'objet, puis secoua la tête. Elle ne refusait pas le bijou. Elle essayait simplement de dire à son compagnon qu'elle n'avait pas besoin de symboles extérieurs. Inutile de compliquer l'accord parfait auquel ils étaient parvenus. Il remit la bague dans sa poche, puis il se pencha vers la jeune fille. Le cœur battant, elle en fit autant vers lui, et leurs lèvres se joignirent. Malta n'avait jamais embrassé d'homme, et elle sentit son corps se couvrir de chair de poule au contact de la moustache sur sa peau, du léger effleurement de la langue de l'homme qui demandait qu'elle entr'ouvre les lèvres. Le temps s'arrêta, suspendu comme un oiseau à nectar dans ce moment extatique où elle devait se décider, écarter les lèvres ou les garder closes. Quelque part, elle perçut un amusement masculin, lointain mais approbateur. « Tu as une nature spontanée, Malta, très spontanée. Même si tes idées sur la cour d'un homme remontent à la très ancienne coutume de l'enlèvement. » Tout s'effaçait autour d'elle dans un tourbillon, ne laissant que le chatouillement de la moustache sur sa bouche. « Je crois que nous allons bien danser ensemble, toi et moi. »